Bonjour, ici Martin Gauthier et vous écoutez Medcast. Le sujet de cet épisode est les troubles de vision comme signe de maladie systémique. L'œil est un organe complexe et comme tel, il y a plusieurs conditions médicales qui se manifestent par un dérangement de la vision ou par un signe au niveau de l'organe de l'œil comme tel. Il y a plus d'une façon de classifier les atteintes de l'œil. On peut classifier selon le niveau anatomique de l'atteinte, comme par exemple l'atteinte des structures qui conduisent la lumière, comme la cornée, le cristallin ou le corps vitré, ou bien l'atteinte des structures qui sont impliquées dans l'acquisition, la transmission ou l'interprétation du signal visuel, comme par exemple la rétine, le nerf optique, les radiations optiques ou le cortex occipital, ou même l'atteinte des structures accessoires, comme l'orbite, l'appareil lacrymal, les paupières, la conjonctive, la sclère, l'iris, la circulation de l'humeur aqueuse, la circulation sanguine ou les muscles et leur innervation. Une autre façon d'organiser les causes de l'atteinte de l'œil serait selon l'étiologie. On peut parler d'étiologie mécanique, traumatique, inflammatoire, infectieuse, néoplasique, dégénérative, congénitale, vasculaire, hémorragique, toxique, métabolique, endocrinologique, nerveuse ou même une disruption de l'anatomie normale. Cet épisode portera spécifiquement sur les manifestations oculaires de maladies systémiques, mais ne discutera pas la pathogenèse, la prise en charge ou le traitement de ces conditions. Le diabète. La rétinopathie est une source de morbidité majeure chez les diabétiques et est une des premières causes de cécité. Le dépistage de routine est important, étant donné que la rétinopathie peut être asymptomatique jusqu'au stade avancé de l'atteinte oculaire. La rétinopathie diabétique peut être divisée en trois stades. Le premier stade est la rétinopathie de fond. À ce stade, on peut voir des microanévrismes, des hémorragies ponctuelles, des hémorragies en flémèche, des exudats lipidiques ou en anglais « hard exudates » et des infarcissements de la rétine ou en anglais « cotton wool spots ». Le deuxième stade est la rétinopathie pré-proliférative. Elle inclut les mêmes signes que la rétinopathie de fond, auquel on ajoute un début de néovascularisation et des veines en forme de chapelet. Le troisième stade est la rétinopathie proliférative. La néovascularisation atteint la rétine et le vitré, et ces nouveaux vaisseaux sont l'origine d'hémorragies vitréennes. Ces hémorragies causent une prolifération de fibroblastes, et la contraction tissulaire qui s'ensuit provoque un décollement rétinien tractionnel. La néovascularisation du segment postérieur peut aussi s'accompagner d'une néovascularisation facilement visible du segment antérieur. À n'importe quel stade, on peut aussi retrouver de l'édème maculaire causé par l'augmentation de la perméabilité des capillaires dans la zone maculaire. De plus, les patients diabétiques développent plus rapidement des cataractes, sont plus susceptibles de développer le glaucome à angle ouvert et l'hyperglycémie peut aussi causer des changements réfractaires. Finalement, la neuropathie diabétique ou l'atteinte microvasculaire en périphérie du nerf optique peut affecter la vision ou les organes accessoires à la vision. L'hypertension. La rétine est un outil pour visualiser le lit vasculaire directement et est donc très utile dans le suivi de l'hypertension. L'hypertension chronique peut causer une forme de rétinopathie ressemblant à la rétinopathie diabétique. Les caractéristiques typiques de la rétinopathie secondaire à l'hypertension chronique sont l'encochement artério-veineux, les micro-hémorragies, des micro-anévrismes et des infarcissements, en anglais « cotton wool spots ». L'hypertension maligne peut présenter avec une étoile maculaire et de l'édème papillaire, mais ce n'est pas la seule cause d'édème papillaire. Le différentiel pour l'édème papillaire bilatéral inclut, entre autres, l'augmentation de la pression intracrânienne, les troubles congénitaux comme les drusènes ou les fibres nerveuses intraoculaires myélinisées, et parfois le diabète, l'hyperviscosité, l'hypotension et l'intoxication. Les maladies auto-immunes. La maladie de Graves et l'hyperthyroïdie. Les patients atteints de l'hyperthyroïdie en général ont un retard palpébral leur donnant l'allure de fixer le regard. De plus, un quart des patients atteints d'une hyperthyroïdie de Graves manifesteront un exophtalmie, causée par une inflammation des tissus rétrobulbaires, y inclut les muscles et les tissus conjonctifs. Le retard palpébral est un facteur de risque pour les ulcères cornéens. La sclérose en plaques. La névrite optique est fortement associée avec la sclérose en plaques. Environ 40% des patients atteints de la sclérose en plaques auront cette perte de vision. La perte est habituellement unilatérale et associée avec une douleur au mouvement des yeux. Une inflammation de la papille optique est observée à l'ophtalmoscopie chez seulement un tiers des patients. Il est aussi possible de retrouver chez ces patients une ophtalmoplégie internucléaire. Le syndrome de lupus. Les symptômes universels associés au lupus n'épargnent pas les yeux. La peau des paupières peut être atteinte de l'érythème discoïde, et ces patients peuvent avoir les yeux secs, le syndrome de Sjögren, et, infréquemment, ces patients peuvent aussi avoir une uvéite, une kératite ou une épisclérite. L'atteinte vasculaire implique souvent la rétine, formant des exudats ou des micro-infarcissements. Les vasculites. Plusieurs vasculites ont une atteinte oculaire. Un des symptômes de la vasculite de Horton, ou artérite temporaire, est une perte de vision transitoire monoculaire ou amaurose fugace. Ces patients sont à 15 à 20% de risque de cécité permanente suite à un infarcissement du nerf optique, d'une occlusion de l'artère rétinienne ou d'une de ses branches, ou d'un infarcissement de la choroïde. L'atteinte ischémique des nerfs oculomoteurs ou du nerf optique peut causer une diplopie ou des hémianopsies. Constellation de signes et symptômes ophtalmologiques accompagne la granulomatose de Wegener, comme la conjonctivite, l'ulcération cornéenne, l'épisclérite, la sclérite, l'exophtalmie et autres. Tout clinicien se doit d'avoir un index de suspicion élevé de la maladie de Kawasaki quand un enfant de moins de 5 ans se présente avec la majorité des symptômes suivants: une fièvre de plus de 5 jours, une injection bilatérale des conjonctives, les lèvres gercées, de l'érythème et une lymphadénopathie cervicale. L'arthrite. 15 à 20% des patients arthritiques auront les yeux secs suite au syndrome de Sjögren secondaire. À l'examen par lampe à fente, les patients auront une injection de la conjonctive et un épithélium cornéen dévitalisé. 5% des patients atteints de l'arthrite rhumatoïde auront aussi une sclérite ou une épisclérite. Comme pour beaucoup d'autres atteintes auto-immunitaires, on peut aussi observer chez les patients arthritiques une kératite ulcérative périphérique de la cornée. La myasthénie gravis. La fatigabilité musculaire de la myasthénie gravis atteint aussi les muscles extraoculaires. Il y a même un sous-type de myasthénie qui est limité aux muscles oculaires. Le signe le plus fréquent et le plus évident est une ptose qui s'empire progressivement au cours de la journée. Les muscles extraoculaires peuvent aussi être atteints. Cependant, la pupille est toujours épargnée dans la myasthénie. La maladie de Besset. La maladie de Besset est une condition inflammatoire chronique qui se manifeste principalement par des petits ulcères sur la muqueuse orale, mais aussi par plusieurs autres manifestations, y inclus une atteinte oculaire. L'uvéite bilatérale sporadique est le signe prédominant, mais il est aussi possible d'avoir un hypopyon, qui est une accumulation de cellules inflammatoires dans le segment antérieur formant un niveau blanc derrière la cornée, ou presque toute autre atteinte oculaire, comme les occlusions vasculaires, une vasculite rétinienne, une néovascularisation, des cataractes et une ulcération conjonctivale. La maladie de Crohn's. La maladie de Crohn's, qui est une inflammation inappropriée de l'appareil digestif, peut aussi comporter des manifestations oculaires comme l'uvéite, l'épisclérite et la sclérite. La sarcoïdose. Un quart des patients atteints de la sarcoïdose auront des manifestations oculaires. Ils sont à risque d'uvéite, de glaucome, de thrombose veineuse rétinienne et autres. Les maladies génétiques. À titre d'exemple, nous allons discuter seulement la maladie de Marfan. La manifestation oculaire cardinale de la maladie de Marfan est l'ectopie lenticulaire. Le cristallin est habituellement délogé vers le haut. Les personnes atteintes du syndrome de Marfan sont aussi plus fréquemment myopes et subissent plus fréquemment des décollements rétiniennes. L'insuffisance rénale. Les manifestations ophtalmologiques sont très utiles dans la maladie rénale comme marqueur de l'efficacité et du besoin pour le traitement. L'urémie peut s'accompagner d'érythème conjonctival, d'une calcification des structures et d'une cécité corticale transitoire. Les cataractes peuvent être le premier signe d'insuffisance rénale. Le syndrome d'Alport est un syndrome génétique regroupant défaillance rénale et surdité avant l'âge de 20 ans. Ces patients ont aussi diverses atteintes oculaires, comme une rétinopathie et un cristallin en forme de cône. L'anémie falciforme peut aussi provoquer une prolifération vasculaire sur la rétine et des stries angioïdes qui ressemblent à des vergetures, et ce, sur la rétine. Les stries angioïdes peuvent aussi être trouvées dans les maladies de Paget, le syndrome de Marfan et le syndrome d'Ehlers-Danlos. L'atopie. La conjonctivite la plus fréquente dans la population générale est la conjonctivite allergique, qui est relativement bénigne. Le syndrome du bébé secoué. Il est essentiel d'effectuer un examen ophtalmologique à toutes les visites sur chaque bébé. Chez un bébé sans antécédents clairs qui pourraient expliquer les signes, des trouvailles d'hémorragie rétinienne, sous-rétinienne ou du vitré, ou des plis dans la rétine ou un édème papillaire augmentent fortement la suspicion d'abus. Un examen complet doit ensuite être effectué et bien documenté pour poser le diagnostic du syndrome du bébé secoué. La maladie infectieuse. À titre d'exemple, nous allons seulement discuter du VIH, étant donné que la microbiologie ophtalmologique est au-delà de la portée de cette discussion. 75% des patients atteints du VIH ont des signes et symptômes oculaires. Le virus du VIH comme tel peut causer une rétinopathie caractérisée par des cotton wool spots et des hémorragies rétiniennes. L'état immunodéprimé rend le patient susceptible aux infections opportunistes, comme les kératopathies, les rétinites ou les choroïdites qui peuvent être causées par les virus herpétiques, le cytomégalovirus, pneumocystis carini ou gyrovasi, candida albicans ou le toxoplasmose. Suite à un traitement efficace aux antirétroviraux, il est possible que le système immunitaire commence à combattre une rétinite au CMV qui était déjà existante chez le patient, et l'inflammation peut causer une atteinte de la vision. Finalement, le sarcome de Kaposi, un néoplasme vasculaire fortement associé à l'infection au VIH, peut s'exprimer sur la conjonctive palpébrale ou bulbaire. Cet épisode de Medcast a discuté des manifestations oculaires de maladies systémiques. Il est fondé sur les notes de cours de Dr. Sitaré, UpToDate et le Toronto Notes, enregistré en mars 2008.